Ce soir, je reçois Fatima Ouda-Pépin, ancienne députée libérale devenue indépendante. Elle est pro-laïcité. En fait, elle défend la laïcité. Dans tous ses textes, on retrouve son argumentaire pour dire que l'islam n'est pas incompatible avec la laïcité. Elle a défendu ce point de vue au fil des années. Elle a été d'ailleurs la première femme musulmane à devenir députée. Elle est consultante internationale et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonsoir, Mme Ouda-Pépin. Bienvenue.
Bonsoir, merci.
Alors, on va écouter un court extrait de votre intervention d'hier qui a duré une quarantaine de minutes en tout et partout. Et d'ailleurs, on peut la revoir intégralement sur le site de l'Assemblée nationale.
D'accord. Merci.
La laïcité est d'abord un choix éminemment politique. Qu'on soit d'accord ou en désaccord avec la position du gouvernement, il a la légitimité de la soumettre au Parlement. Les adversaires de la laïcité ne cesse de l'associer au racisme, à la discrimination et à l'exclusion des plus vulnérables. Une image très dommageable pour le Québec, tant au plan national qu'international.
Bonsoir, Mme Ouda-Pépin.
Bonsoir,
c'est un débat quand même extrêmement polarisant. Vous avez pris une position qui vous défendez la laïcité et vous dites l'islam est compatible avec la laïcité. Pourquoi?
Oui. Alors, d'abord, je vous dirais que je défends la laïcité depuis 1985, où j'ai organisé la première conférence sur la laïcité et la neutralité religieuse de l'État. Et je suis toujours constante avec ce principe-là que je défends. Ça fait partie de mes convictions. Pourquoi est-ce que l'islam est incompatible avec la laïcité? Parce que l'islam est une religion laïque. Il n'y a pas de clergé dans l'islam. Quand on parle dans l'islam de ce débat-là, on parle du rapport entre la religion et la politique. On ne parle pas de la séparation de l'Église et de l'État, parce que cette formule-là n'existe pas dans l'islam. Et dans ce sens, les grands réformateurs de l'islam, ils ont écrit beaucoup, beaucoup de choses qui démontrent que l'islam est tout à fait compatible avec la laïcité dans le sens occidental du terme, mais évidemment avec la spécificité de l'islam comme tel.
Alors, comment expliquez-vous que devant ce projet de loi, les opposants, on assistait à des manifestations au mois d'avril en particulier, vous avez écrit des textes là-dessus sur lesquels je vais revenir, pourquoi les opposants, surtout les musulmans, pas seulement les musulmans, je suis très prudente parce qu'on est inondé de commentaires, là, disent que c'est un projet de loi islamophobe?
Bien, alors premièrement, les commentaires des gens qui sont radicaux, moi personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir parce que je sais exactement qui ils sont, quel est leur agenda et je ne m'attendrai pas du tout de leur part à ce qu'ils soient conciliants, ni avec le gouvernement actuel, ni avec le gouvernement libéral d'ailleurs. Le projet de loi 62, il s'est ramassé tout de suite devant les tribunaux alors qu'il n'y avait pas grand-chose là-dedans. Et il y avait la condition de l'accommodement qu'on pourrait porter même une burqa au gouvernement avec l'accommodement que M. Couillard avait permis. Aujourd'hui, ils sont insatisfaits, mais on connaît ces gens-là.
Qui sont-ils?
Ben, c'est des gens qui sont vous faites référence au collectif contre l'islamophobie. Mmh. Ben, ces gens-là qui sont dans la mouvance islamiste, qui défendent, qui ont un discours qui est incompatible avec l'islam comme tel. Ils ont un agenda politique, c'est leur agenda. Ça ne m'empêche pas, moi, personnellement, de dire ce que je pense, parce que ces gens-là sont là et qu'ils se présentent éventuellement. Ils vont faire des commentaires désobligeants.
Mais c'est un islam politique, ils ont un agenda. En France, il y a un livre important qui vient d'être publié, les Qatar Papers, les papiers du Qatar, où on montre qu'il y a une mouvance qui veut influencer l'adoption des lois et des politiques en Occident. C'est un agenda, ça. Mm. Croyez-vous que ça existe ici?
Mais bien sûr, Madame Dussault, prenez juste une organisation. Il y en a plusieurs. Une organisation, la Société des Frères Musulmans. C'est une multinationale. Elle est présente partout. Et leur objectif, vous savez, la Société des Frères Musulmans, son principe de base, c'est qu'il faudrait endoctriner l'individu, la famille, la société, puis l'État. Alors, depuis les années 30, et depuis que ces gens-là sont à l'œuvre, ils sont rendus actuellement à l'étape où il faut infiltrer l'État, il faut influencer l'État. Puis ils font leur travail. On ne peut pas dire qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est que les gens qui sont pour la démocratie, pour la laïcité, ne font pas leur travail pour contrecarrer ces mouvements-là.
On entend quand même beaucoup de points de vue de leur part en disant que c'est une atteinte à leur liberté de religion, une atteinte à leur conviction religieuse. Or, hier, vous avez fait un exposé qui disait « Le voile n'est pas religieux ». Si vous voulez, on va écouter un court extrait.
D'accord.
Les femmes peuvent porter les voiles, mais ce n'est pas un signe religieux, ça ne confère pas des droits.
Donc, on ne devrait pas leur interdire le port du hijab.
C'est-à-dire que le voile n'est pas un signe religieux qui confère des droits. La liberté de religion n'est pas en cause ici. Le problème, ce n'est pas de porter un hijab ou un signe. Le problème, c'est que ce foulard ou ce hijab ou cette burqa ou quoi que ce soit, on prétend que ça fait partie de la liberté de religion et on prétend que c'est un droit fondamental et on prétend à ce titre-là qu'on ne peut pas l'enlever parce que sinon, c'est de la discrimination.
Alors, il n'y a pas seulement que les musulmans qui disent que c'est inadmissible, c'est discriminatoire. Il y a des universitaires, il y a des lettres qui ont été écrites de dire imposer le retrait du voile à des femmes, c'est les priver d'accès, par exemple, comme pour devenir enseignante. On a vu ces reportages-là. Comment concilier cela avec le fait que, pour vous, ce n'est pas un signe religieux?
Madame Dussault, la mouvance islamiste dont on parle a réussi à imposer sa vision des choses dans les pays occidentaux. D'ailleurs, c'est là qu'elle est en train d'élaborer toutes ses stratégies, puis elle est capable de les faire bouger. 1989, il y a eu une crise du foulard en France. Ouais. C'était la première fois que le foulard était mis à l'avant-scène comme carte d'identité politique. C'est eux qui le disent, comme carte d'identité politique. Et depuis, ils militent pour que le foulard soit accepté comme un signe religieux, conférant des droits. Or, j'ai cité à l'Assemblée nationale deux moftis qui disaient que le foulard, c'était la question de signe religieux, était inexistante dans l'islam. Et alors, quand on érige ce foulard dans les pays occidentaux, que les gens ne comprennent pas l'islam, hier, quand j'ai dit que dans l'islam, ce n'est pas un signe religieux, il y a des gens qui ont perdu leur salive en me disant comment ça se fait, on a toujours pensé ça.
Mais le président de la commission, de la Fédération de la commission scolaire, M. Fortier, qui était à cette émission hier soir.
Oui, d'accord, mais je les comprends. Ouais. Parce que, Mme Dussault, le problème, c'est qu'on transpose sur l'islam toutes sortes d'images, toutes sortes de concepts qui sont construits par les groupes islamistes, qui sont gobés par les pays occidentaux, y compris les médias.
Mais la logique voudrait, si on vous suit jusqu'au bout, qu'on fait fausse route en voulant faire enlever le voile aux enseignantes, par exemple. Parce que la loi présume que le voile est un signe religieux, comme tous les opposants ici. C'est comme on dirait que c'est comme un point de vue majoritaire dans l'opposition à ce projet de loi.
Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que cette conception des choses, que le voile est islamique, d'abord, ce qui est totalement faux, parce que les femmes, factuellement, les femmes se sont voilées dans toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les religions, et l'islam n'est pas propriétaire du voile pour qu'il en fasse un signe proprement islamique. Ça, c'est la première chose qui est de l'agenda politique des islamistes, pas nécessairement des musulmans. Deuxièmement, ils ont réussi à en faire un signe religieux qui est associé à la liberté de religion. Ils ont réussi à faire valoir ça. Et cette liberté de religion leur confère des droits. Et ces droits étant fondamentaux, donc, vous êtes pris. Mm-hmm. Vous êtes pris. Ça, c'est votre logique dans les pays occidentaux.
Donc, on ne fait pas fausse route en voulant la laïcité et en interdisant l'ensemble des signes religieux.
Mais, bien sûr, la laïcité n'est pas discriminatoire du simple fait qu'elle s'applique à toutes les religions et aussi à l'irreligion. Parce que l'État ne favorise ni ne défavorise aucune religion.
Est-ce que les femmes voilées qui refuseraient de retirer le voile pour enseigner, parce que c'est ça, hein, ça va jusqu'aux enseignants, est-ce qu'elles sont intégristes?
Madame Dussault, moi, je viens d'un pays musulman. J'ai été élevée dans une famille croyante et pratiquante. Je viens d'une ville qui a été la première ville musulmane à avoir été fondée au 7e XIXe siècle au Maroc. J'ai été bercée par les chants religieux, par la musique sacrée. Je sais exactement c'est quoi l'islam dans lequel j'ai été élevée, qui est pacifique, qui est ouvert, qui est serein. C'est la foi sincère. Jamais, moi, j'étais à l'école coranique. Mon imam ne m'a jamais demandé de porter un foulard. J'ai fait l'école primaire, secondaire, le collégial et l'université. Je n'ai pas vu un foulard dans mes classes ni dans mes écoles.
Alors, cet islam politique défendu par certains est une atteinte pour vous à l'égalité entre les hommes et les femmes?
Absolument.
Que veut reconnaître les chefs?
Absolument. Leur objectif, c'est quoi? Ils ont une obsession avec le corps de la femme. On veut contrôler le corps de la femme, on veut contrôler sa sexualité, sa fertilité, son droit de se déplacer. Alors, il faut couvrir ce corps-là, il ne faut pas le voir, il ne faut pas nécessairement même en voir les formes. Et ça, c'est de la discrimination. Réellement, c'est de la discrimination.
Au Moyen-Orient, vous l'avez cité hier, vous avez entendu des femmes parler de leur libre choix de porter le voile au nom de la modestie et d'autres raisons. En même temps, ces femmes-là, aujourd'hui, se sentent discriminées. Avez-vous l'impression que toute la question du voile est une tentative aussi de bloquer l'accès ou l'adoption de la laïcité pour le Québec?
Oui, absolument. Mais ce n'est pas seulement au Québec, mais partout. C'est la laïcité, toute la démocratie, toute la question de l'égalité. Toutes les religions sont inféodées et instrumentalisées par les extrémistes religieux. Et tous ces extrémistes religieux, Madame Dussault, ils s'attaquent à la liberté des femmes, aux droits des femmes. C'est ça qu'il faut reconnaître. Et s'il y a une discrimination, elle est là. Elle n'est pas dans le fait que l'État, au Québec ou ailleurs, puisse se donner une laïcité qui respecte finalement le principe de la neutralité religieuse de l'État à l'égard de toutes les religions. Les musulmans, ils ne pourront pas trouver un pays, y compris chez eux, qui puisse leur offrir les meilleures garanties de liberté de religion qu'au Canada et qu'au Québec.
En terminant, Mme Hervieux-Payette, hier, a tenu des propos qui ont été un peu interprétés, un peu beaucoup interprétés comme étant un dérapage. Je ne sais pas si vous aviez entendu ces propos.
Non, je n'ai pas entendu, malheureusement. Ben,
je vous résume, en tout cas, que le voile...
Non, mais ne me résumez pas. Non. Je vais vous dire tout de suite que je ne commenterai pas sur les commentaires des gens.
D'accord. Voilà. Non, ce n'est pas sur les commentaires des gens, mais elle faisait le lien. Elle citait aussi une auteure qui disait
Ben,
le voile...
Je connais l'auteur, par exemple, parce que votre recherchiste m'en a dit un mot. Je connais l'auteur, je sais très bien ça, mais
on lui reproche de faire un amalgame entre le voile et les autres formes.
Mais ce que je sais de vous dire, on a très peu de temps. J'aimerais bien qu'on reste sur la laïcité s'il y a lieu. Moi, sinon, on a terminé,
mais au fond, vous souhaitez l'adoption de ce projet de loi.
Mais je souhaite l'adoption de ce projet de loi parce que je crois que la laïcité, c'est la meilleure garantie pour la liberté de religion et la liberté de conscience. Je pense que le Québec est rendu là. Son histoire le démontre. Et on a, au Québec, lutté pour ça. Et maintenant, il faut déposer le dernier jalon. D'accord. Et c'est cette laïcité-là.
Vous savez, on reçoit les pour et les contre. Un dernier mot, là, très rapidement. Que dites-vous aux contre, ceux qui disent que c'est vraiment discriminatoire, que c'est un recul social? Enfin, je pourrais faire la liste. Vous les connaissez, les arguments pour s'opposer à ce projet de loi. Et des gens brillants, il y a des philosophes, il y a des juristes.
Oui, les philosophes...
La Commission des droits de la personne...
Oui, je sais, les philosophes, on a entendu Monsieur Taylor. Monsieur Taylor, c'est un grand philosophe et je le respecte. Mais quand il parle de la laïcité, on ne sait pas si c'est un philosophe ou un politicien qui parle. Parce que franchement, là...
Mais c'est connu que c'est un grand catholique pratiquant.
Oui, je sais, mais l'Assemblée des évêques du Québec, elle ne s'est pas opposée à la laïcité. D'accord. Alors ça, c'est au-dessus de Monsieur Taylor.
Madame Oudah-Pépin, merci beaucoup. On continue de vous lire dans le Journal de Montréal.